Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
En même temps qu'une livraison express vient d'arriver dans ce studio, c'est votre journal des médias. Vous allez savoir quelle est cette livraison express et quel est le sommaire du jour, Charles.
Alors, le sommaire. Quel score pour l'interview exclusive d'Obama? Je suis distrait par cette livraison du coup. L'anniversaire d'une star du petit écran, c'est lié. Le pari de l'année sur TF1 et un bouleversement du côté de Twitter.
Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Pas de surprise, c'est évidemment le foot qui s'est imposé. France-Suède a permis à M6 de prendre la pole position. Au compteur, 5 millions de téléspectateurs, soit 20,3% du public. M6 est leader ex aequo sur les femmes de moins de 50 ans, à 18% de part d'audience. France 3 est deuxième avec le retour de sa série Crime Parfait. Les deux épisodes inédits ont fédéré en moyenne 3 800 000 téléspectateurs pour 16,7% de part d'audience. C'est plus d'un million de moins que les derniers inédits de la série cet été. Enfin, c'est TF1 qui est troisième avec la suite de Manifeste saison 2. Les deux premiers épisodes inédits de la soirée ont réuni 2 200 000 téléspectateurs, soit 9,5% du public seulement et 18% donc sur les femmes de moins de 50 ans. C'est encore en baisse après un retour très décevant mardi dernier.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une autre audience très attendue, celle de l'entretien exclusif de Barack Obama sur France 2. C'était hier à 20h40, juste après le 20h d'Anne-Sophie Lapix.
Voilà, 5 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous hier soir, donc à 20h40. Une part d'audience de 21,5%. France 2 était alors première chaîne de France. L'entretien a duré une trentaine de minutes. C'est François Bunel qui posait les questions. C'est 1 400 000 personnes de plus que le feuilleton Un si grand soleil, lundi, dans la même case.
Le Canard enchaîné, on passe à la presse écrite, plonge dans le numérique.
L'hebdomadaire l'annonce aujourd'hui, il prépare sa mue sur Internet. Le Canard promet enfin un vrai site Internet plus complet, plus facile d'accès et plus convivial. Il proposera également des formules d'abonnement en tout genre. Alors c'est une petite révolution pour l'hebdomadaire. Elle a été accélérée par la faillite du distributeur Prestalis. Cette crise a fait basculer les comptes du Canard dans le rouge pour la première fois de son histoire. Mais pas de panique, en 2019, ses pertes ne représentaient que 0,2% de ses produits d'exploitation.
Le focus programme du jour, c'est la grosse nouveauté de cette année 2020 sur TF1.
Ça s'appelle District Z et ça fait des mois que la Une nous en parle en dévoilant au compte-gouttes des informations sur ce nouveau jeu d'aventure. Hier, la chaîne a enfin officialisé sa date de diffusion. Elle lancera la première saison de ce programme hors du commun le vendredi 11 décembre, une semaine après la finale de Koh-Lanta. Dans l'émission, des personnalités comme Camille Combal, Jarry ou encore Michael Youn vont évoluer dans des décors apocalyptiques truffés de zombies. Elles vont devoir affronter des épreuves impressionnantes pour récolter le plus de fonds possible pour une association. District Z, c'est un énorme pari, c'est une création française déjà imaginée par Arthur. Sa société de production a mis le paquet pour séduire TF1, mais aussi potentiellement d'autres diffuseurs internationaux. Et les chiffres évoqués par Arthur donnent le tournis.
Pour donner une idée, il y a plus de 50 km de câbles juste pour les caméras. Il y a 45 caméras, plus 17 embarqués, plus 5 drones, plus une Spider-Cam. Alors ça ne dit pas grand-chose, mais on a donné les moyens. Je crois qu'il y a plus de caméras que pendant la finale de la Coupe du Monde, par exemple. Le chef off m'a dit qu'il y a de quoi éclairer 20 The Voice. On avait tellement besoin de matériel qu'on a dû en faire venir de toute l'Europe. En termes de moyens techniques, c'est du jamais vu. Et donc les techniciens se sont surpassés, sont transcendés, parce qu'on a mis des caméras dans des tombes, on a mis des caméras sur des zombies. Vous allez voir, on a même des caméramans déguisés en zombies pour approcher au plus près de l'action. On a créé des appareils technologiques sur le bras. Ils ont des espèces de petites lampes, parce que comme on tourne de nuit, les petites lampes leur éclairent le visage. Enfin, c'est très, très, très conçu.
Aux commandes du jeu, on retrouvera Denis Brognard, habitué des décors paradisiaques de Koh-Lanta. L'animateur a été bluffé par le plateau de District Z, comme il l'a avoué à Louise Bernard.
C'est 10 hectares, c'est 18 jeux différents. Il y en a qui sont en intérieur, d'autres en extérieur, mais constitué un endroit réservé aux pompiers. On a fait un set de lancer de frisbee incroyable. Enfin, rien que pour aller d'un set à l'autre, parfois il faut 5 minutes à pied. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il faut imaginer que chaque site de jeu est équipé en lumière, est équipé en caméra, est équipé en son, pour que tout ça puisse aller très vite et qu'on puisse tourner de 8h du soir à 8h du matin dans les meilleures conditions. Enfin, moi j'avais jamais vu un endroit aussi vaste, aussi impressionnant pour une émission de télévision.
Voilà, un jeu spectaculaire tourné de nuit, donc...
Un jeu de cartes ultra populaire s'apprête à débarquer à la télé.
Ce jeu, c'est Uno. Son fabricant Mattel a signé un contrat avec une société de production américaine pour le transformer en jeu télé. Alors vous imaginez bien qu'on ne va pas simplement regarder des candidats jouer aux cartes. L'idée, c'est d'en faire un jeu plus spectaculaire avec 4 équipes qui devront relever des défis. Et le public pourra également participer. Arrivée prévue en télé en 2021, juste à temps pour les 50 ans du jeu de cartes.
Là aussi, c'est arrivé cette livraison, l'anniversaire d'une star de la télé et du cinéma.
C'est tout ce que j'ai rêvé d'avoir un jour. Wouhou !
cette voix, c'est celle de Mickey, la souris la plus célèbre du monde. Souffle ses 92 bougies aujourd'hui, un anniversaire qui va se fêter sur Disney+. Dès aujourd'hui, le service de streaming de Disney propose une nouvelle série baptisée Le Monde Merveilleux de Mickey. Les deux premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles et les suivants seront mis en ligne dans les semaines à venir. Cette série modernise la légende Mickey tout en honorant son histoire, comme l'a expliqué à Louise Bernard Sébastien Durand, spécialiste de la pop culture et de l'univers Disney.
Un dessin de Mickey un peu avec les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un dessin proche de ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit sur YouTube, et en même temps c'est traditionnel parce qu'on retrouve un petit peu le Mickey des origines, aussi bien dans son look par exemple que dans le style graphique qui, en même temps qu'il est moderne, rappelle un peu le caractère original de Mickey qui n'était pas toujours aussi sage que ce qu'il est devenu, et puis traditionnel parce qu'effectivement on retrouve un format de cartoon un peu à l'ancienne de quelques minutes qu'on avait un petit peu perdu, avec des gags, avec voilà, toute la bande de Mickey. L'intérêt d'une série comme ça, c'est de parler du Mickey aux gens qui le connaissent depuis toujours et puis de continuer à le faire découvrir.
Les jeunes enfants vont donc pouvoir faire connaissance avec Mickey, un personnage dont la popularité ne s'est jamais démentie.
Il y a des raisons techniques, hein. C'était le premier héros de cartoon qui parlait, il est passé à la couleur très vite. Il y a des raisons artistiques, c'est un personnage qui a eu des cartoons qui ont marqué l'histoire du cinéma, je pense notamment à l'apprenti sorcier dans Fantasia. Mais c'est aussi un personnage qui est plein d'enthousiasme. Le succès de Mickey, c'est un petit peu tout ça. Et puis, sans doute, ce qu'on met de nous-mêmes dans Mickey, hein, Walt Disney disait aussi, Mickey, c'est pas juste une souris, Mickey, c'est une part de chacun de nous. Et je pense que dans Mickey, on se reconnaît tous. Ce que Mickey fait, on aimerait réussir à le faire. Il perd jamais courage. Hein.
Sébastien Durand, spécialiste de la pop culture et de l'univers Disney, au micro de Louise Bernard. À noter que cette fin d'année marque un autre anniversaire, c'est les 40 ans du partenariat Disney avec l'association Make-A-Wish, une association qui exauce les vœux d'enfants malades. Une peluche Mickey va être mise en vente pour l'occasion.
Voilà, et voici pourquoi nous l'avons à l'image. Vous pouvez la voir sur europe1.fr, cette peluche.
Une partie des recettes sera reversée à l'association et Disney ira plus loin en faisant un don d'$1 pour chaque publication sur les réseaux sociaux avec le hashtag LoveFromDisney dans la limite de $100 000.
Puisqu'on parle de hashtag, on termine ce journal avec trois infos. La première, c'est la nouvelle fonctionnalité qui va bouleverser Twitter.
Vous connaissiez les tweets, voici les flits. C'est un mot anglais qui évoque l'éphémérité, s'inspirant de Snapchat ou des stories Instagram. Le réseau social va permettre à ses 187 millions d'utilisateurs de publier des messages, photos ou vidéos qui s'effaceront au bout de 24 heures. L'objectif affiché est de dédramatiser l'acte de tweeter, d'enlever la pression qu'il peut impliquer. Fini l'angoisse qu'on déterre un de vos vieux tweets gênants qui datent d'il y a 10 ans. La mise en place de Fleet est imminente, la fonction est déjà disponible pour certains utilisateurs.
Édouard Philippe planche sur une série de télé.
L'ancien Premier ministre a annoncé au point qu'il travaillait avec des scénaristes sur l'adaptation de son roman. Ça s'appelle Dans l'ombre, il l'avait écrit en 2011 avec le député européen Gilles Boyer. Édouard Philippe s'est entouré donc de scénaristes pour raconter cette histoire qui se déroule dans les coulisses d'une campagne présidentielle.
Et à propos du point, nous serons vendredi avec Christophe Onodibio du point justement qui a d'autres révélations au sujet d'Édouard Philippe. Et puis enfin, cette question cruciale, Dolly Parton va-t-elle sauver le monde.
Et oui, la chanteuse country fait partie des âmes charitables qui ont financé le développement du vaccin anti-Covid de la société Moderna. Au printemps dernier, elle avait donné $1 million pour aider la recherche. Un million qui a bien servi. Le vaccin Moderna serait efficace contre le virus à 94,5%. Une bonne raison de se quitter en s'écoutant un petit bout de Dolly Parton.
Jolene, 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 Jolene.
Heureusement que c'est pas René Lataupe qui a financé le vaccin. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias.